alcoolique non mythique. Martine, la fille parfaite des livres pour enfants.
Et les autres? Ben, c'est nous, quoi. C'est vous.
Et on a fait une blague qui disait « Lilith, Martine et les autres sont sur un bateau qui tombe à l'eau. »
Le patriarcat.
Un vendredi sur deux, 18h, Lilith, Martine et les autres, pirates les autres de Radio Cadu, pour une heure de mutinerie féministe.
Radio Canu, 102.2.
Bonsoir à toutes. Ce soir, dans Lilith, Martine et les autres, on se sent d'humeur belliqueuse dans les studios de la plus rebelle des radios. Alors on a décidé de vous emmener avec nous dans un bric-à-brac de sons, de lectures, de musique qui prennent à bras-le-corps la lutte antisexiste et mettent des coups de boule au patriarcat.
Et pour commencer, on va vous faire écouter un reportage sur un mystérieux groupe d'activistes féministes qui ont mené une véritable action coup de poing dans un bar de la rue Chevreul à Lyon.
Le coup de poing, on s'assoit, on démarre la carte, on regarde, on dit bah en vrai, c'est pas grave, tout part. À moins qu'on veut sortir avec. Parce qu'il y a fois des casseaux des verres et tout, mais ça c'est pas ça.
Septième arrondissement, rue Chevreuil, à Lyon. Nous avons suivi un groupe de féministes très déterminées dans une mission qu'elles ont appelée la mission sabotage.
Nous sommes actuellement au lycée.
Mine fermée, tags agressifs, stickers radicaux. Les toilettes de cet établissement où elles viennent de faire une descente sont méconnaissables. Elles affirment avoir de bonnes raisons d'agir quand beaucoup qualifient leurs actes de gratuits.
C'est un bar qui pratique un marketing sexiste. Il est recouvert d'affiches porno dévalorisantes. Ils vendent de la bouffe et de la bière avec des messages du type « La doctoresse au gros sein, l'infirmière de nuit complaisante et disponible à toute heure, l'école des petites baiseuses ». Sur ses réseaux sociaux, ça donne par exemple une photo d'une femme avec des burgers dans les mains et une paille dans la bouche et le commentaire « Quand les deux mains sont prises, il suffit d'utiliser la bouche ».
Nous sommes allés à la rencontre des commerçants du quartier qui nous ont témoigné leur inquiétude en ces temps troublés où on ne peut plus rien dire.
Ça nous impacte à peu près à 50% de perte de chiffre d'affaires. Maintenant, on a réduit nos effectifs de 33%.
Nous espérons surtout que la casse se passe beaucoup plus loin que chez nous.
Donc on voit les traces du pied de biche.
J'ai peur pour mon entreprise et puis j'ai peur pour mes salariés. Là, c'est vrai que c'est un coup d'arrêt violent.
Le préfet dit s'inquiéter d'une possible massification de tels sabotages féministes. Affaire à suivre.
D'après les informations dont nous disposons, 1000 à 2000 activistes radicaux, possiblement renforcés d'individus venant de l'étranger, pourraient tenter de semer le désordre et la violence.
Entendu plusieurs rumeurs concernant ces terribles événements qui ont eu lieu rue Chevreul. À ce jour, rien n'est de source sûre, mais on a ouï dire qu'après cette attaque, cette action coup de poing, les choses n'en sont pas restées là, non, loin de là.
Ah bon ?
Et ouais. La serveuse de l'histoire, finalement, a été outrée par ces affiches. Elle a demandé des comptes aux décideurs. Elle a réclamé que le bar change toute sa déco, toute sa com. Et face à un refus, à ce qui paraît, elle est entrée dans une rage. Et elle a tout pété dans le bar.
Incroyable.
Elle a déchiré les affiches, elle a hurlé « affiches de merde, affiches sexistes, culture du viol, on en a marre ». Et Les rumeurs disent que depuis, elle a rejoint le groupe d'activistes et ensemble, elles font trembler tous les patrons des bars sexistes à Lyon.
Et la deuxième rumeur ?
Elle est un peu moins réjouissante. L'action, a priori, aurait laissé de marbre le personnel qui a simplement et gentiment salué les activistes. Mais qui sait ?
Bon, bah, en tout cas, si vous nous écoutez et que vous avez quelques informations sur la suite de ce sabotage, n'hésitez pas à nous contacter, à Lilith Martin et les autres, on est preneuses d'informations. On espère fortement que ce soit la première rumeur, hein, qui soit la vérité. En tout cas, la situation a l'air tendue. Bien évidemment, à Lilith Martin et les autres, on souhaite lancer un appel au calme. Ce type d'établissement ne mérite pas d'être la cible de votre colère, de finir avec sa vitrine cassée ou que sais-je. On voudrait quand même revenir sur les logiques sexistes du marketing.
Eh oui. Officiellement, bien sûr, le sexisme est interdit par les instances d'autorégulation de la publicité.
Mais attends, du coup, si c'est interdit, tout va bien. On peut arrêter l'émission et relancer les bandes continues, non ?
Tout va bien. On n'a plus rien à faire.
Bon, bah, c'était l'idée de partir des autres. Je relance les bandes continues. Allez, salut ! Non, petite blague, je te laisse continuer. Désolé.
Malheureusement, oui, parce que les instances d'autorégulation de la publicité, c'est quand même on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, on ne comprend pas trop comment ça peut s'autoréguler, la publicité. Enfin, moi, je suis allée sur Wikipédia, je n'ai pas tout compris. C'est une association dans laquelle il y a aussi des conseils. Alors, il y a des trucs d'éthique, de parité, etc. Mais bon, donc, a priori, donc, c'est interdit de faire de la pub sexiste, mais bon. Voilà, on sait de quoi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, on aurait du mal à imaginer des pubs aujourd'hui qui disent ouvertement des slogans qu'on a vus dans des pubs auparavant, quoi. Du style, vous voulez dire que même une femme peut l'ouvrir, en parlant d'une sauce. Ou bien, une femme, une pipe, un pull pour un pull.
Ah oui, c'est classique, celle-là.
Voilà, celle-là, elle est classique. Donc ça, a priori, on pourrait potentiellement plus le voir. Mais en fait, l'utilisation des corps des femmes et l'érotisation des corps des femmes sont toujours bien présentes dans la publicité. Et il y a une association, d'ailleurs, qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire. Et cette association, elle a lancé en 2020 l'Observatoire de la publicité sexiste pour montrer ça, en fait. Donc le procédé que cette asso a utilisé, c'était de lancer en ligne un formulaire qui permettait à tout le monde de signaler une pub qu'une personne aurait vue et jugée sexiste, et puis de mettre un petit commentaire en disant pourquoi. Et en un an, il y a eu 165 contributions qui venaient de 20 villes de France et qui concernaient les pubs donc en ville, à la télé, sur internet, dans la presse, etc. L'asso, donc, elle les a analysées et elle a conclu, attention, que la pub était bien sexiste, bel et bien sexiste, et donc elle a parlé de...
Voilà. Le suspense était à son comble.
On s'y attendait pas du tout. Et elle parle de publisexisme. Donc, c'est-à-dire que les stéréotypes et les injonctions de genre, quotidiennement... ça parle des injonctions, des stéréotypes qui sont véhiculés quotidiennement dans les publicités. Alors Jeanne Guien, qui est porte-parole de l'association Résistance à l'agression publicitaire, elle est aussi doctorante en histoire, elle a donné une interview à Reporter pour parler de ça, et elle nous raconte, elle a raconté un peu en quoi la publicité, elle reste profondément sexiste. Malheureusement, donc, la diffusion de stéréotypes et d'injonctions persiste, comme on vient de le dire, et voire même elle est renforcée, soit par l'usage de vieux clichés, soit par l'invention de nouveaux procédés de marketing ou d'image qui maintiennent les femmes en position inférieure, et même elle parle de purple washing, qui est la récupération des luttes féministes par la publicité. Les publicitaires et les marketeurs ciblent toujours les femmes dans leurs injonctions à consommer et les enferment dans un rôle de dépensière. En plus, le sexisme reste très fort dans les images, avec les mises en scène, les attitudes, les montages, etc. Tout des choses qui sont suggérées, etc., dans les montages. Mmh. Et donc ça se traduit comment ? Concrètement, déjà, il y a l'injonction à la beauté, qui est tout le temps là. Et alors, bien sûr, pas n'importe quelle beauté, mais super normée, avec le culte de la minceur, l'épilation, la jeunesse, la blanchité. Et donc, c'est toujours un peu... c'est des canons d'esthétique qui sont, a priori, en plus, inatteignables. Et même, a priori, la plupart des corps qui sont montrés, ce ne seraient pas des vrais corps de femmes, mais des montages. Même les corps des mannequins qui font tout pour parvenir à des canons de beauté sont même retouchés pour effacer potentiellement des effets qui pourraient être dus à une mauvaise santé, des cernes, voilà. Donc au-delà de cette injonction de la beauté, il y a aussi que les corps ils sont tout le temps sexualisés. avec les clichés qui reviennent tout le temps. La bouche ouverte, le dos, les jambes écartées, sans vêtements ou avec un décolleté, une jupe courte, des talons hauts, des habits moulants, etc. Les femmes, elles sont déshumanisées. Ce sont des femmes troncs. Elles sont prises en photo avec des plans rapprochés. Des fois, il n'y a pas leur visage. Il y a un focus sur le haut de leur cuisse, sur leur bouche, leur poitrine ou leurs fesses. Elles sont mises en scène dans des postures super inconfortables dans la vie normale, voire ridicules. Et dans leurs attitudes, elles sont représentées souvent comme un peu stupides, irrationnelles, et puis voilà, en proie à des émotions, des désirs incontrôlables, etc. Et aussi, ben, elles sont tout le temps rabaissées à une fonction de consommatrice, représentées par essence comme des personnes intéressées par les objets, l'achat, qui aiment dépenser, découvrir des nouveaux produits, qui aiment s'occuper de leur corps, du corps des autres, de leur maison. Donc voilà, on voit aussi que la charge mentale familiale, elle est toujours attribuée aux femmes. Et alors pourquoi ces stéréotypes, c'est dangereux? Bah déjà c'est dangereux et puis c'est néfaste pour les femmes elles-mêmes, parce que finalement, bah, quotidiennement en fait, on perçoit ces messages-là à longueur de journée. On est exposé à des publicités qui nous disent bah, qu'on est inférieur, idiote, superficiel, qu'on ne sait pas prendre des décisions, etc., qu'on est irrationnel, tout ça. Donc pour l'estime de soi, déjà, ça joue quoi. Et puis, bah, comment est-ce qu'on accepte et qu'on aime son corps quand les canons qui sont véhiculés, bah, ils sont super normés et qu'ils sont pas variés et inatteignables aussi, enfin voilà. Donc cette réalité, bah, elle est mesurable parce que les femmes sont les premières victimes des troubles de l'alimentation, de la consommation, des abus de chirurgie esthétique, des produits blanchissants pour la peau, de l'anorexie, etc. Et en fait, on parle carrément de danger de mort, hein, enfin. Et ces injonctions les placent aussi dans un cercle vicieux, bah, de précarité, parce que les publicités vantent les mérites des produits qu'elles sont censées acheter et racheter pour atteindre un idéal jamais qui n'est pas atteignable. En plus de la charge mentale que ça nécessite de toujours penser à ça, etc. Voilà. Il y a un autre effet psychologique dont parle Jeanne Guillain, c'est le rapport un peu au travail, notamment aux vocations, le choix des carrières, etc. Parce que, comme dans les pubs, les femmes sont tout le temps assignées aux métiers domestiques, le soin, enfin les produits de soin, les choses comme ça. Ben, comment est-ce qu'on peut imaginer faire autre chose? Comment on peut penser qu'on est capable de faire autre chose de sa vie si toute la journée, bah, dans les messages de pub, entre autres, c'est pas que ça, mais ils nous disent que... que nos corps sont destinés à servir les désirs des autres, les besoins des autres, etc. Que c'est sur nous que repose la charge mentale, etc. La publicité, elle a donc des effets sur comment on se sent, mais aussi sur à quoi on se consacre et un peu ça joue sur nos possibles, nos imaginaires. Elle prive donc les femmes de la liberté de choisir. Donc dans le rapport dont je parlais au début, là, l'Observatoire des pubs sexistes, il y a aussi, le rapport il soutient que ces images elles encouragent la culture du viol. Donc ça c'est quoi? C'est la banalisation des représentations des femmes comme des objets disponibles, toujours désirants et toujours désirants à être courtisés. Donc cette omniprésence de l'image des femmes disponibles, offerte, dominée, etc., ben, ça accrédite l'idée que la femme est un objet sexuel toujours disponible aux commentaires, aux attouchements, aux agressions, donc le consentement là-dedans, voilà. Et que ben, comme elles sont là pour ça, on peut aisément se passer du consentement. Enfin, ça brouille, ça vient appuyer la culture du viol. Et d'ailleurs, ces dernières années, le milieu de la publicité a connu aussi un MeToo. Il a été secoué par plusieurs affaires de harcèlement sexuel avec une vague de témoignages sur les réseaux sociaux visant plusieurs agences et personnalités du secteur. Il y avait un compte Instagram qui s'appelle Balance ton agency, qui a donné de l'écho à ces témoignages, qui a montré le climat de harcèlement sexuel, moral, que subissent les femmes dans le milieu, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses depuis ces dernières décennies. Mais elles sont moins nombreuses au poste de responsabilité, enfin le classique. Chez les publicitaires français aujourd'hui, il semble acquis qu'on peut faire un peu n'importe quoi avec l'image des femmes, mais aussi avec les femmes elles-mêmes. Alors aussi, tout à l'heure, on a évoqué donc, la fameuse autorité de régulation professionnelle de la publicité, mais bah, on s'en doute, ça a des failles. Bah, parce que si c'est elle qui gère, qui autorégule la publicité, déjà si on veut dénoncer quoi que ce soit et que c'est auprès de cet asso qu'on doit le faire, on se demande un peu comment c'est possible. Et donc, bah, si on a envie de faire une plainte, cette plainte sera reçue par des professionnels qui, donc, en plus, n'ont le pouvoir que d'émettre des avis favorables ou défavorables d'une campagne. Mmh. Mais il n'y a pas d'action, en fait, sur ça. Du coup, l'action, elle n'a pas vraiment d'effet, ni préventif, ni autre, parce que les avis ne sont même pas contraignants. Enfin, ça ne joue pas sur la campagne en soi. Et en plus, les campagnes de pub, ça va hyper vite, quoi. Là, ils disent, dans l'article, ils parlaient de 2 semaines, quoi. Les campagnes, ça durait hyper... C'était court, un peu éphémère. Et en plus, l'Observatoire de la pub, elle a émis des gros doutes aussi sur la compétence des membres de cette association, là, de l'autorégulation, au sujet du sexisme, parce qu'en plus, elle a un peu suivi de près le dépôt de plainte d'une jeune femme qui avait été très choquée par une pub Yves Saint Laurent. Alors, cette pub, elle représentait une jeune femme allongée par terre, la face contre le sol, avec un gros plan sur ses fesses. Et elle évoque une forme de violence et d'abus. La jeune fille est inconsciente, etc. Et en fait, l'association n'a pas vu d'évocation de la violence dans cette mise en scène, quoi. Carrément, elle a même pas admis le caractère super violent de la scène. Et donc, ça montre quand même qu'il y a le niveau est quand même vraiment bas par rapport aux professionnels de la pub. Et en plus, les professionnels de la pub qui disent à longueur de journée que la publicité a un rôle culturel à jouer, ignorent le concept de la culture du viol, etc. Ils sont au-delà de ça, tout ça.
Toujours courir, quoi.
Voilà. Donc on peut se demander quand même si cette asso, elle n'est pas juste là pour entretenir le mythe de l'autorégulation, mais c'est tout. Et en plus, la publicité on peut bien se demander aussi comment, dans le monde patriarcal, raciste dans lequel on est, je vois pas comment une instance de pub avec des intérêts capitalistes, économiques qui jouent sur ça, comment ça pourrait s'autoriser. Enfin, ça paraît un peu absurde, quoi. Finalement, on est constamment sursollicité en plus par les pubs qu'on n'a pas du tout choisi de voir, enfin, tout le temps, en nombre assez phénoménal. Donc, au-delà même de questionner, à quoi ça sert la publicité dans notre monde capitaliste et consumériste, en plus, on voit que la pub, elle n'est pas du tout là pour informer sur un produit, mais en fait, elle cherche à séduire, elle cherche à faire vendre, d'ailleurs, sûrement des choses inutiles. Et pour ça, elle utilise les corps et les corps des femmes. Notamment et malheureusement. Donc oui, la pub reste sexiste et les affiches qu'on a mentionnées en tout début d'émission dans notre reportage coup de poing participent aussi à la culture du viol et ça peut-être qu'on en parlera une prochaine fois.
Grave. Tout ce que tu dis sur les pubs, moi ça me fait penser à ces pubs qui procèdent un peu au retournement du stigmate. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Par exemple, là je pense pas à un truc particulièrement sexiste, mais j'ai un exemple juste après. Ouais. Sur cette fameuse entreprise, je citerai pas le nom, de livraison de repas à domicile qui exploite tous ces travailleurs, qui fait cette pub en disant ça arrive. Comme quoi ils savent très bien en fait qu'ils exploitent leurs travailleurs et que du coup il y a quand même une grosse critique qui est posé sur les gens qui vont utiliser ce genre de service-là et qui disent là, eux, ça arrive en mode on vous incite à quand même le faire, même si on sait que notre entreprise c'est de la merde. Et j'avais vu une autre pub cette fois-ci, du coup, qui concernait des produits d'épilation en fait pour les femmes et qui disait. En gros, mon corps, mon choix, je fais le choix de m'épiler. Ouais. Et en fait, il sous-entendait qu'il y avait une sorte de... Il retournait un peu le stigmate en disant, les féministes qui disent l'injonction à s'épiler, etc. En fait, elles sont en train de vous obliger à ne pas vous épiler. Alors que nous, entreprises qui vous vendons tous ces rasoirs roses 40 mois plus chers et ces bandes épilatoires, on vous permet... de faire ce que vous voulez. Et voilà, ça me fait penser à ça. Ouais. Je trouvais ça vraiment très très crasse.
Carrément. On se dit qu'il y a des gens quand même qui sont payés pour trouver des... Enfin, en fait, c'est fou aussi, ces trucs de manipulation et d'utiliser les concepts féministes, etc. pour vendre des trucs. Enfin, et pour...
Écoutez, on pense du bien des marketeurs. Moi, je propose qu'on continue tout en douceur et dans le calme avec une chanson des Vulves Assassines, Godzilla 3000.
Certains me diront ça sert à quoi les gros muscles. Moi je leur réponds. Avoir des gros muscles, ça sert à faire voler les avions. Ça sert à faire décoller les fusées. Ça sert à déplacer les montagnes.
Mirko, je veux des coconuts. Massif et agressif. Mirko, c'est mon kiff.
En mars 1975, en Allemagne, ont lieu deux actions antisexistes signées par des femmes des cellules révolutionnaires. La cathédrale de Bamberg est incendiée en réponse au sale rôle de l'Église dans l'oppression des femmes et une bombe est déposée au tribunal constitutionnel après le rejet de la réforme de l'article 218 sur l'avortement, déclaré anticonstitutionnel. Deux ans plus tard, comme il est alors courant dans l'ensemble du mouvement radical, des femmes des RZ, Revolutionärer Zorn, ça veut dire colère révolutionnaire, font le choix de se séparer de l'organisation mixte en créant leur propre cellule qu'elles nomment Rote Zora. L'organisation de femmes en non-mixité est alors somme toute relativement ordinaire. Leur pratique de lutte armée l'est beaucoup moins. Nous serions tentés de leur attribuer le terme de guérilla si elle ne mettait pas en garde sur ce point. Le concept de guérilla ne nous convient pas ici, dans la mesure où il vise à conquérir le pouvoir avec des formations militaires. Nous ne voulons pas conquérir, mais détruire le pouvoir patriarcal. Les groupes militaires portent déjà en leur sein un pouvoir en soi. Après avoir multiplié les mesures répressives tout au long de la décennie, l'État ouest allemand répond férocement à une importante offensive de la fraction Armée Rouge à l'automne 1977, et ceci en s'attaquant à l'ensemble des mouvements radicaux fortement marqués par l'assassinat en prison de plusieurs membres de ce groupe. Quelques mois avant cet apogée de la violence d'État, les Rote Zora se forment dans un contexte extrêmement difficile pour la lutte. Pourtant, leur nom témoigne d'une certaine légèreté. Il est titré du livre de Kurt Held, Die Rote Zora und ihre Bande, qui raconte les aventures de Zora, gamine vivant dans les ruines d'un château avec d'autres enfants des rues. Ils s'organisent ensemble pour parer aux injustices, vivent en solidarité et aspirent à une vie libre. Ce n'est pas là, semble-t-il, une référence très sérieuse pour un groupe de lutte armée. Répartis en moins d'une petite dizaine de cellules sur le territoire ouest allemand, les Rote Zora s'ajoutent au réseau des cellules révolutionnaires déjà existantes, partagent pour l'essentiel leur position et utilisent les mêmes méthodes d'action et d'organisation. Leur nom porte les mêmes initiales RZ. Le groupe se démarque cependant des autres cellules par un féminisme radical qui ne parcellise pas leur engagement. L'antipatriarcat est partie prenante d'une lutte totale contre le capital. Les genres et leurs rôles sont abordés comme les éléments d'un mécanisme structurel qui ne peut se comprendre qu'à la lumière d'une analyse politique et économique du système. À l'heure où le féminisme allemand s'étiole sous la pression d'une institutionnalisation croissante et dérive vers une introspection collective stérile, les Rote Zora se distinguent du mouvement des femmes en réaffirmant la connexion intrinsèque entre le combat féministe et la lutte des classes. Les Rote Zora s'attaquent rapidement à des instituts, entreprises et personnes en tant que rouages de cette société capitaliste de domination masculine. Leurs actions sont revendiquées avec le souci constant de montrer que l'injustice et la violence ne sont pas seulement structurelles, mais qu'elles ont des auteurs tangibles et attaquables, et d'encourager à la multiplication de ce type d'actes. Dans cette perspective, Elles affirment l'impératif pour les femmes de rompre avec l'impuissance de la victime et soulignent la jouissance que procure l'attaque. Pour contrebalancer un aspect folklorique de la violence politique qui a tendance à fasciner et donc à distancier, danger, aventure, ruse, habileté, capacité technique, etc., elles mettent en avant le plaisir que les actions peuvent procurer et soulignent la nécessité de démystifier la lutte armée, qui est dans la réalité souvent constituée de tâches quotidiennes peu valorisantes. Dans les années 80, les Rotet Zora multiplient les actions dans toute la RFA en alternant actions conjointes avec les RZ et actions indépendantes. Elles entament au début de cette décennie une campagne contre la politique mondiale de contrôle des populations et contre les biotechnologies.
Das von der Firma Schering und dem Land Berlin 1983 gegründete Genzentrum steht kurz vor seiner.
Ces thématiques sont pour elles centrales dans la lutte antipatriarcale. Elles participent alors à de larges campagnes qui se développent tant dans la sphère légale que sur le terrain illégal. Elles ciblent alors essentiellement des centres de recherche en génétique, humaine ou agricole, des sociétés pharmaceutiques impliquées dans des stérilisations forcées, ou encore des acteurs et complices du commerce international de femmes. Leur contribution est donc matérielle, par les destructions qu'elles causent, mais réside aussi pour beaucoup dans les discussions que leur position provoque. L'une des actions les plus célèbres et les plus fructueuses des Rotet Zora a lieu en 1987. Les Rotet Zora soutiennent des travailleuses sud-coréennes alors en grève contre l'entreprise de textile Adler, l'une des plus grandes compagnies de manufacture de vêtements de RFA et dont la production a augmenté sensiblement grâce au faible salaire de ses ouvrières. Durant l'été 1987, a lieu une série d'attaques à la bombe incendiaire dirigées contre le siège social de l'entreprise et une dizaine de magasins de la chaîne Adler. Ces attaques, menées par les Rotet Zora, et auxquels ont participé les Amazones de Berlin-Ouest, causent des millions de dollars de dégâts. Elles sont l'une de leurs plus belles victoires. Adler cède rapidement et prend en compte les revendications des Coréennes en grève. Les Rotet Zora expliquent leur geste dans un communiqué de revendication. « Nous ne nous battons pas pour les femmes du tiers-monde, nous nous battons à leur côté. » En décembre 1987, une vague de perquisitions fait suite à des actions contre les technologies génétiques et de reproduction et les politiques xénophobes. Consciente des difficultés qu'annonce cette offensive policière nommée Action Tobel, les Rotet Zora se font plus discrètes. Puis, la réunification allemande bouleverse les conditions politiques du pays. Au début des années 90, l'axe de lutte se concentre sur l'antiracisme et l'antifascisme pour faire face à la résurgence du sentiment national et avec lui, des groupes néo-nazis. Bien que n'organisant plus d'actions conjointes, les RZ comme les Rotet Zora orientent leur attaque contre les politiques xénophobes. Le 3 octobre 1993, les cellules révolutionnaires revendiquent leur dernière action contre la police des frontières, alors que certains groupes des cellules se sont déjà autodissous. À la même période, les attaques des Rotet Zora connaissent un soubresaut. Elle s'attaque en 1994 à la société Vegle Mego, société qui vend aux municipalités d'infâmes colis alimentaires venus remplacer l'aide pécuniaire plus substantielle autrefois accordée aux réfugiés. Un an plus tard, en juillet 1995, par l'attaque du chantier naval de Brême, elle dénonce la politique militaire de l'Allemagne qui vend des bateaux de guerre à l'armée turque. Les Rotet Zora signent à cette occasion leur dernier communiqué. Extrait de « En catimini, histoire et communiqué » des Rotet Zora.
Eine gute Frau hört auf ihren Mann. Sie kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Schwanz. Wenn sie nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran. Ich bin eine gute Frau, ich hör auf meinen Mann. Ich kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Schwanz. Wenn ich nicht ficken will, Privatsphäre oder Rechte hab ich keine. Dafür krieg ich seine Rechte, bis ich weine. Darf auch manchmal vor die Tür, aber selten mal alleine. Wenn ich fertig bin mit Putzen, darf er rein in meine Scheide. Was für Feiern gehen, so benehmen sich nur Schlampen. Du kannst nicht mehr auf die Straße, alles voller Asylanten. Kein Kontakt zu anderen Typen, außer zu meinem Verwandten. Dass wir wählen gehen dürfen, haben wir Männern zu verdanken. Dein Ernst, wie gehst du wieder raus? Wegen Nutten wie dir, wird dem Opfer nie geglaubt. Zu Hause spricht der Gürtel, auf der Straße spricht die Faust. Auf dem Weg vom Club nach Haus, vergewaltigt und missbraucht. Eine gute Frau hört auf ihren Mann. Sie kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Schwanz. Wenn sie nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran. Ich bin eine gute Frau, ich hör auf meinen Mann. Ich kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Schwanz. Wenn ich nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran. Ich bin eine gute Frau, ich hör auf meinen Mann. Ich kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Schwanz. Wenn ich nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Krieg ich einen Korb, kriegst du was in deinem Becher. Wegen euren schlampen Töchtern wird mein Sohn zu einem Verbrecher. Du bist und bleibst eine Fotze mit drei Löcher. Raus aus dem Bett, ab in die Küche. Wegen Feminismus ging mein letzte Ehe in die Brüche. Bitch, ich zeig kein Unterhalt, auch wenn du sagst, ich müsste. Nach dem dritten Kind ging es bergab wie deine Brüste. Was willst du in einem Supermarkt? Ich dachte, du bist vergeben. Möchtest mit Nett wegen Regelschmerzen, mir kommen die Tränen. Du blutest wie ein Schwein, Nutte, ich würde mich schämen. Eine gute Frau würde trotzdem geben. Eine gute Frau hört auf ihren Mann. Sie kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Schwanz. Wenn sie nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran. Ich bin eine gute Frau, ich hör auf meinen Mann. Ich kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Schwanz. Wenn ich nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran. Ich bin eine gute Frau, ich hör auf meinen Mann.
Gleichberechtigung, ne?
Mmh. Alors, petit souci de téléchargement, mais en tout cas, on a entendu Martha qui nous a fait le récit d'une action militante, du coup, en Allemagne, à la fin des années 70. Et on a écouté après la chanson « Nora et une gute Frau ». J'ai jamais fait allemand.
Moi non plus, désolé.
Mais vous nous pardonnerez. Voilà. Ah, Maëlle, remonte pas les potards. On recommence.
Militante, activiste, femme engagée, je déteste ces mots. On n'a pas arrêté de me les imposer, de les employer pour me définir, sans me demander mon avis. J'ai fini par m'en servir aussi, faute de mieux, faute de réussir à expliquer ce qui me dérangeait. Je n'ai pas fait le choix de lutter. J'ai dû, je dois le faire. Je n'ai pas décidé de défendre une cause importante, au choix parmi toutes celles qui le méritent, car c'est ma cause que je défends. Je l'incarne de la tête aux pieds, depuis mes mots jusqu'à mes tripes. C'est de ma vie et de ma dignité qu'il s'agit. J'ai dû et je dois encore me défendre. J'étais victime, je suis devenue militante. On me réduit désormais à ce mot que je ne comprends pas, qui exclut de fait la possibilité que je sois toujours victime, alors que mes convictions ne me protègent d'absolument rien. On me dit en lutte. Alors que les hommes me font la guerre depuis ma naissance, font la guerre à ma mère, l'ont faite à ma grand-mère et à toutes celles qui nous ont précédées. Ce n'est pas moi le soldat, ce n'est pas moi qui vais au conflit et qui attaque des civils pour protéger tout un système de domination. Les hommes, eux, s'engagent activement dans cette lutte en tuant, en violant, en agressant, en harcelant, en écrasant. Je ne m'engage pas, moi, je résiste. Texte d'Anaïs Bourdet, Fatigue, dans Feu, abécédaire des féminismes présents, coordonné par Elsa Dorlin.
J'essaie de bien ajuster le tissu, de bien serrer, au cas où la police essaierait de nous l'arracher. Elle prend soin d'effacer chaque détail de son identité. Ne plus être une jeune Mexicaine,
pour revêtir le noir des combattantes. Celui des bloqués négros, des activistes féministes radicales. Elle se fait appeler Matante Sera, celle qui tue.
On est toutes cagoulées. C'est ça, être bloqué négro. Au Mexique, une femme doit montrer son physique, ses courbes. Alors nous, se revêtir entièrement de noir, ça représente notre rage, notre anticonformisme. On leur prend le pouvoir. Il faut qu'ils aient peur de nous. Comme nous, on a eu peur d'eux avant.
Des black blocs mexicaines, copiées sur le modèle européen de ces activistes radicaux. Elles ont entre 18 et 30 ans et sont aussi violentes qu'anonymes, jusqu'à faire peur à une partie de la population. Elles incarnent une nouvelle vague féministe, plus radicale et brutale. Quand la génération précédente défilait en silence, une photo à la main, elles frappent, cassent et pillent pour se faire entendre.
Ben alors, vous êtes perdus ?
La cible principale de bloqués négros, ce sont les forces de police. Ce jour-là, une voiture est postée en surveillance dans le quartier d'Ocupa. La réponse est immédiate.
Tiens, prends ça, fils de pute. Prends la plaque en photo. Prends la plaque.
Vous n'avez pas peur d'aller en prison pour ce que vous faites ?
Au Mexique, c'est plus probable que tu finisses morte par féminicide plutôt que d'aller en prison. Statistiquement, il y a plus de chances qu'on fasse partie des 11 femmes assassinées chaque jour dans ce pays plutôt qu'on aille en tôle. Parce qu'au Mexique, on le sait, en échange d'un billet, tu sors.
Toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios, on vient d'entendre quelques extraits d'un documentaire d'Arte sur le bloqué négro du coup au Mexique. Et on s'apprête à vous lire quelques extraits d'un texte d'Elsa Galbin, « T'as jamais vu une femme qui se bat ». L'expression « black bloc » ne désigne pas des personnes mais un mode d'action, une stratégie, une tactique ponctuelle de manifestation. Les personnes qui adoptent cette stratégie sont le plus souvent masquées et vêtues de noir. Elles manifestent au sein du cortège, parfois en tête, et peuvent agir, dégradation, confrontation avec les forces de l'ordre, etc. Mais aussi faire simplement acte de présence dans un but d'intimidation. Cette stratégie fédère des petits groupes de militantes qui s'organisent préalablement pour la manifestation, vêtements de rechange, matériel dissimulé sur le parcours, tels que bombes de peinture, projectiles, outils, ou plus rarement des personnes seules. Participer à un black bloc se définit comme un acte politique. Les militantes qui s'en réclament ne peuvent être considérées comme une entité homogène. Le black bloc n'est ni un groupuscule, ni un collectif établi. Né en Allemagne au début des années 1980, le black bloc est une des tactiques du mouvement autonome. Les femmes y sont présentes depuis le début. Elles ont créé des maisons de femmes, des squats, des centres d'hébergement pour celles qui fuient leur conjoint violent. Ce mouvement autonome vient s'imposer contre l'État paternaliste. La compétence féministe a toujours existé dans les franges radicales, explique par exemple Emmeline Fourman, docteur en sciences politiques, spécialiste des femmes dans le Black Bloc allemand. Elles sont les précurseuses de ce mouvement. Un constat que dresse aussi le politiste québécois Francis Dupuy-Déry dans son livre « Les Black Blocs, la liberté et l'égalité se manifestent ». Les femmes étant en général très actives dans les mouvements sociaux progressistes, il n'est pas étonnant qu'elles le soient dans les manifestations plus radicales de ces mouvements.
Se définissant comme femme racisée, Lana dit sa déception face au sexisme et au racisme du milieu militant qu'elle imaginait plus safe, plus attentif à l'intégrité émotionnelle. J'ai participé à des ouvertures de squat. Il faut barricader, bricoler, et toi, on ne te laisse rien faire à part la boue. Les mecs cis ne partagent pas leurs connaissances. Or, agir de manière radicale s'apprend. L'art du camouflage, du jet de projectile, du tag, du bris de glace, la rapidité d'action, tout se transmet et s'acquiert. Mais la jeune femme n'a pas l'intention pour autant de s'arrêter de méditer. Elle qui s'amuse de voir des gros machos échouer face à une vitre, là où elle, avec sa silhouette discrète et sa petite taille, parvient à la briser d'un seul geste, adroit, avec son morceau de tungstène. je ne sais pas ce que c'est. C'est une façon de dire à l'État qu'il ne sera jamais tranquille, poursuit Lana. La casse est ciblée, ce n'est pas pour le show ou foutre le bordel. Banque, agence d'intérim, assurance, institution. Les bâtiments visés sont des symboles du capitalisme. Je ne considère pas ça violent de briser une vitrine de banque, soutient Narca. Pour moi, c'est une réponse à la répression. On est militante parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne demande pas à tout le monde de faire la même chose. Moi, je suis pour l'addition des modes d'action. Un avis que partage Lana pour qui la violence vient de l'État. J'aspire à un monde de bisounours. Je ne vois pas en quoi je mérite la prison. Or, je me prends des coups de matraque. Lana exerce dans le milieu médical. Comme toutes les militantes, elle perçoit que le care est plus développé chez les femmes du fait d'une construction sociale qui assigne ses compétences au genre féminin. Un atout dans un black bloc ? En tout cas, le ciment d'une plus grande solidarité qui rend les femmes plus attentives aux autres que leurs camarades hommes. La chercheuse Emmeline Fourmand fait ce constat lapidaire. Si la solidarité d'un black bloc ne devait compter que sur les hommes, elle n'existerait pas. Le black bloc est solidaire grâce aux femmes, et sans elles, il serait moins performant.
Ouais, c'était donc des quelques extraits d'un article d'Elsa Galbin qui sont parus dans la revue
La Déferlante.
Si vous avez l'occasion d'aller lire, c'est assez intéressant. En tout cas, il y a plein de sources, bon, qui sont inégales de mon souvenir, en tout cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu intéressant déjà qui casse un préjugé qui est souvent le cas, notamment dans les médias. Bon, de toute façon, les black blocs dans les médias, on sait ce que ça donne, mais qui est que ce soit strictement composé de mecs cis. On vous propose justement, en parlant de violence politique comme moyen d'action politique, d'écouter le témoignage d'une Vénézuélienne qui a participé aux manifestations dans les années 2018 au Venezuela, et qui nous parle justement de la violence comme moyen d'action politique et de sa place en tant que femme dans ces manifestations et de l'usage de la violence. C'est un témoignage qui a déjà été diffusé il y a quelques années dans une autre émission de Radio Canu, Minuit Décousu.
Au Venezuela, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que notre société, c'est vraiment machiste. On a fait des manifestations pour avancer un peu, mais c'est dur. Nous sommes très conservateurs et ça fait que c'est un challenge.
Cruda Juvencic, one more time, representing women and queer people choices.
Pour nous, c'est le thème de l'avortement parce que c'est interdit presque dans tous les pays, dans l'Amérique latine en général. Donc, je pense que ça, c'est la chose qui est un peu prioritaire. Mais aussi la violence, oui.
On the International Day for the Decriminalization of Abortion, Revolutionary Feminist Movement.
L'avortement, si tu n'as pas d'argent, normalement les filles essayent de le faire par elles-mêmes et elles peuvent mourir. Je J'ai connu un cas d'une amie qui l'a fait et ça a été hyper cher. Ça a coûté 200 $, mais en Venezuela, ça veut dire beaucoup. Beaucoup. Si tu as l'argent, tu peux le faire. C'est illégal quand même, mais sans problème. Si tu n'as pas l'argent, c'est impossible. La loi, il écrit que tu peux rester 6 ans en prison.
Il porte la despénalisation de l'avorto comme une forme indispensable pour garantir le droit de la vie de las mujeres et le droit à décider de sobre su propio cuerpo.
Venezuela, c'est vraiment connecté avec les mouvements LGBT. Je me souviens, c'était une situation, il y avait un couple de filles dans une place et un militaire les a attaqué. Et ça est très 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 connu partout, tout le monde était très énervé. Donc c'est un militaire que c'est un fonctionnaire du gouvernement. Donc du coup, c'est hyper dur, comme on a un gouvernement qui n'est pas si démocratique. C'est pas seulement la société qui a besoin de changer, c'est aussi les gouvernements. Les gouvernements, c'est autoritaire. Donc du coup, toute manifestation comme ça, c'est un peu interdit. Il n'y a pas beaucoup de monde comme les manifestations politiques, bien sûr, mais c'est quand même la même sensation que tu as la police autour de toi, les militaires et aussi les gens qui sont en train de crier des choses. Ils te regardent un peu comme ils sont fous ou qu'est-ce qui se passe ici, vous faites tout ce bruit pour rien, donc c'est un peu stressant. C'est vraiment dangereux à la fin parce que quand tout le monde commence à se disperser, ça c'est le moment qu'il y a des gens qui vont attaquer les gens qui sont dans les manifestations. Des fois c'est les militaires, des fois c'est la police, des fois c'est les civils. Il y a aussi des gens, mais pour moi c'est incroyable, mais il y a des gens qui supportent le gouvernement, mais aussi ils supportent les revendications féministes. Donc pour moi ça, il n'y a pas de sens, si tu les analyses normal. Pour moi ça, il n'y a pas de sens.
Under the threat of force, protests were banned during today's controversial special election.
Venezuelan opposition supporters have marked 100 days of anti-government protests with yet another march.
Tens of thousands of Venezuelans have taken to the streets of the capital, Caracas, in an attempt to topple President Maduro from power. He was sworn in for his second term a fortnight ago after elections which were boycotted by the opposition and condemned internationally.
Université, la Universidad Central de Venezuela. C'est connu parce qu'on fait des manifestations contre presque tous les gouvernements. Presque toujours, on départ de l'université pour y aller à les manifestations. Et moi, je me souviens plusieurs fois, on essayait de sortir de l'université et ce n'était pas possible. Parce qu'ici, on a la porte de l'université et jusqu'ici, 10 mètres de nous, il y avait les militaires avec les gros voitures. Non, vous ne pouvez pas sortir. Les gaz lacrymogènes, tout ça. J'avais l'habitude d'aller avec mes amis de l'université. Mais tous les parents, non, tu ne peux pas y aller. C'est très dangereux. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est très dangereux. Tu peux te faire tuer là-bas. Et, mais quand même. On le faisait souvent parce qu'on avait réfléchi ça, que si tu faisais rien maintenant, après, juste pour rien faire. Tout le monde, franchement, tout le monde s'est fait attaquer dans les manifestations politiques. Ils ont lancé les bombes lacrymogènes de l'hélicoptère au-dessous. Donc ça peut te tuer si ça tombe dans ta tête. On avait la bonne chance que ça n'a pas arrivé. Mais quand tu es comme ça, ça c'est le moment que les militaires profitent de t'attraper. Donc... C'est dur parce que tu as besoin de courir partout. Il y a quelqu'un qui t'attrape et te retient. Donc, il y a tes amis qui te prennent les bras et non, lâche-le. Donc, oui, plusieurs fois, c'était comme ça. On a besoin de courir. Ils ont lancé des choses à nous.
At least three people have been shot dead during anti-government protests in Venezuela. Both sides are blaming each other for the killings.
In early February, as peaceful student demonstrations has turned deadly. An estimated 30 protesters have been killed in violent police crackdowns. Major opposition figures such as Leopoldo Lopez.
Les gens qui sont âgés un peu comme mes parents. 50 ans. Non, la manifestation, c'est pacifique. Toujours pacifique. Tu ne trouvais pas de mamie dans les manifestations. Oui, on va lancer ça. Non, non, pas du tout. Et presque toujours, les dirigeants politiques de l'opposition là-bas, ils ont dit, c'est pacifique. Mais, à la fin, c'est pas pacifique du tout. Tu ne peux pas parler de manifestation pacifique si tu as les militaires là-bas. Si tu as la police qui t'attaque, c'est pas pacifique du tout. Quand on a commencé à faire des manifestations presque tous les jours, ça a devenu très violent, très très violent. Que moi, il n'y avait pas problème de rester. Quand tu es devenu un peu violent, moi, il n'y avait pas problème. Mais c'est vrai aussi que je pouvais voir qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui restaient. Et je crois, je ne sais pas si c'est culturel ou pas, mais on a sa chose là-bas que, oh, on a besoin de protéger les filles. Je pense que c'est nécessaire. Un peu de manifestations pas pacifiques pour les féministes parce que on a l'habitude qu'on ne fait pas attention à les choses qu'on n'entend pas. C'est un peu comme, oui, il y a un problème là, mais moi je ne les vois pas, donc ça va, c'est pas un vrai problème. Donc du coup, des fois, oui, c'est nécessaire que c'est un peu plus violent, pas de tuer des gens, mais je veux dire un peu plus violent parce que sinon... Le monde t'entend pas.
L'action directe n'est pas une tactique ou une activité particulière et n'implique pas nécessairement d'enfreindre la loi. Elle recouvre ce qui s'oppose directement à un pouvoir oppressif, empêche une action malfaisante, s'attaque à une institution injuste et interfère avec elle, mais aussi ce qui répond directement à un besoin ou offre une alternative. Nourrir celles et ceux qui ont faim, fournir des seringues propres aux usagers et usagères de drogue afin d'empêcher la propagation du sida, ou encore fournir un abri aux femmes battues, peuvent relever de l'action directe. bloquer l'OMC, perturber les centres financiers pour protester contre les lois qui ciblent les pauvres, ou désobéir à un règlement comme l'a fait Rosa Parks en refusant de s'asseoir à l'arrière d'un bus. Ce sont autant d'exemples d'actions directes qui perturbent ou refusent d'accepter une situation injuste. Lorsque l'action directe implique d'enfreindre ouvertement une loi néfaste, elle devient désobéissance civile. L'action directe est un outil qui doit être utilisé avec d'autres outils, au sein d'une campagne qui peut inclure recherche, éducation, construction d'organisations et de coalitions, tentative d'utiliser les systèmes législatifs ou judiciaires pour répondre aux problèmes, négociations, actions symboliques. L'action directe peut être utilisée pour défaire les liens subtils qui tiennent ensemble le système. Celles et ceux qui organisent et prennent le risque de l'action directe sont la pointe d'un pied de biche qui s'insère dans une fissure du système. Mais le poids, la poussée à l'autre extrémité qui arrache le clou, correspond à la base de soutien que nous aurons créée. Extrait de « Quel monde voulons-nous ?» Starwalk, paru pour la première fois en 2002.
Tracy Dessa and Auntie S. De Paris à Abidjan. Bruh, who the fuck are you calling a bitch? Huh? We gon' show ya. You got some nerve to say that I'm applauding the audacity. Wanna compliment the devil. Some call that blasphemy. I'm a fucking hustler, but a girl don't sound like Cassidy. Six figures in your statement and you still just be a pass for me. If I act cool, I'm a bitch. If I fuck good, I'm a bitch. If I fight you, I'm a bitch. Guess I am all I wish. If I act cool, I'm a bitch. If I fuck good, I'm a bitch. If I fight you, I'm a bitch. Guess I am all you wish. Hit it from the top, boy, hit it from the top. I don't need a man, sugar, I don't need a rock. No need to prove that I'm a genie from the block. I got my fingers, sugar, call me Mrs. Park. Sugar mama in the making. I'm royal in the draping. Hot caramel, no flaking. No ratchet, watch your phrasing. Confident and smarty in my pants and in my panties. I'll throw no pity party even if my mood it varies. My skin, it tastes like coal, but my private tastes like berry. Might call all these fuck boys Tom, cause they chase me like I'm Jerry. If I act cool, I'm a bitch. If I fuck good, I'm a bitch. If I fight you, I'm a bitch. Guess I am all I wish. If I act cool, I'm a bitch. If I fuck good, I'm a bitch. If I fight you, I'm a bitch. Guess I am all you wish. En sa couplet, j'suis énorme, ça y est, anti-S est boulimique.
C'était Martine, Lilith et les autres. On se retrouve dans deux semaines.
Et on est en train d'écouter Bitch de Tracy Dessa. Et on va se laisser sur une dernière citation lue par Martha. Et avant de vous laisser aussi avec le Canu Info juste après.
Salut.
Personne qui a eu un projet et
l'a
effet.
Là.
Toute personne qui a eu un projet et l'a effectivement mené à bien, ou qui a exposé son plan devant d'autres et a emporté leur adhésion pour qu'ils agissent tous ensemble, sans demander poliment aux autorités compétentes de le concrétiser à leur place, toute personne qui a agi ainsi a pratiqué l'action directe. Toutes les expériences qui font appel à la coopération relèvent essentiellement de l'action directe. Toute personne qui a dû, une fois dans sa vie, régler un litige avec quelqu'un et est allée droit vers là où les personnes concernées pour le régler, en agissant de façon pacifique ou par d'autres moyens, a pratiqué l'action directe. Les grèves et les campagnes de boycott en offrent un bon exemple. Beaucoup d'entre nous se souviennent de l'action des ménagères de New York qui ont boycotté les bouchers et ont obtenu que baisse le prix de la viande. En ce moment même, un boycott du beurre est sur le point de s'organiser face à la hausse des prix décidée par les commerçants. Ces actions ne sont généralement pas le produit d'un raisonnement profond sur les mérites de l'action directe ou indirecte, mais résultent des efforts spontanés de ceux qui se sentent opprimés par une situation donnée. En d'autres termes, tous les êtres humains sont, le plus souvent, de fervents partisans du principe de l'action directe et la pratique. Cependant, la plupart d'entre eux sont également favorables à l'action indirecte ou politique. Ils interviennent sur les deux plans, en même temps, sans y réfléchir longuement. Seul un nombre limité d'individus se refusent à avoir recours à l'action politique dans telle ou telle circonstance, voire la récuse systématiquement. Mais personne, absolument personne, n'a jamais été incapable de pratiquer l'action directe. C'est grâce aux actions, pacifiques ou violentes, des précurseurs du changement social, que la conscience humaine, la conscience des masses, s'éveille aux besoins du changement. Il serait absurde de prétendre qu'aucun résultat positif n'a jamais été obtenu par les moyens politiques traditionnels. Parfois, de bonnes choses en résultent. Mais jamais, tant que la révolte individuelle, puis la révolte des masses, ne l'imposent. L'action directe est toujours le héros, l'élément déclencheur, qui permet à la grande masse des indifférents de prendre conscience que l'oppression devient intolérable. Discours de Voltairine de Clare, prononcé le 21 janvier 1912 à Chicago, puis publié la même année par la Mother Earth Publishing Association à New York.